Merci beaucoup Patrick et merci Étienne de votre invitation à reprendre quelques chemins familiers hein, de la peste, avec quelques liens évidemment que tu as déjà évoqués tout au long, je pense aussi des séances que tu as faites, avec l'expérience, hein, l'expérience que nous faisons d'une année de pandémie causée par un virus inconnu à une échelle jusqu'alors jamais égalée. Mais cette expérience que nous faisons offre, me semble-t-il, une grille de lecture utile pour repenser le passé et reconsidérer aussi bien les attentes des sociétés que les réponses qu'ont pu fournir médecins et autorités publiques pour faire face à une maladie terriblement létale, à en croire les témoignages des contemporains, on en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais aussi les recherches historiques et archéologiques. En effet, cette maladie, vous le savez, surpasse par ses conséquences démographiques d'assez loin les effets des autres pathologies infectieuses et endémiques connues dans le monde occidental, puisque moi aussi je me centrerai sur l'espace européen ce matin. Autres pathologies que sont la rougeole, le typhus, la malaria, la tuberculose, la dysenterie, la grippe, la variole ou encore la lèpre. Si aujourd'hui les États, les experts et l'opinion se réjouissent des succès de la vaccination et du recul de l'épidémie, même s'il existe encore des zones de résistance, il faut se rappeler, il y a un an, notre sidération, notre inquiétude, notre impatience aussi, suscitée donc par cette épidémie, par sa propagation rapide, par les mesures de confinement qui ont été prises quasiment à une échelle planétaire, mais aussi par l'impuissance médicale. Ces réactions s'inscrivent donc dans des temporalités où se croisent le temps de la maladie, le temps de la science, celui du politique et bien sûr aussi celui de l'économie dont je ne parlerai pas ce matin. Des temporalités aujourd'hui bien plus rapides qu'elles ne l'étaient à l'époque médiévale, mais qui n'en jouent pas moins, me semble-t-il, pour le Moyen-Âge, un rôle essentiel dans les perceptions et dans les réactions vis-à-vis de l'épidémie. Aussi, l'expérience de la peste, compagne familière des sociétés occidentales pendant près de 4 siècles, on l'a rappelé tout à l'heure, rend-elle, me semble-t-il, indispensable une approche attentive à ces temporalités. Elle permet de se détacher d'une historiographie construite à l'aune des savoirs actuels, mais aussi de certaines anciennes médiévales, une historiographie souvent méprisante à l'égard des savoirs médicaux et de leurs détenteurs, soulignant aussi bien l'inanité des soins, l'incompréhension des mécanismes de propagation, la lâcheté des praticiens ou encore leur impuissance, sans oublier leur esprit de lucre, bien évidemment, donc, des praticiens qui auraient été aussi totalement coupés de la sphère politique. Si, eu égard aux découvertes tardives du bacille de la peste et de l'agent infectieux, il apparaît facile de porter un jugement négatif sur une profession médicale alors en plein essor au XIVe siècle et tout particulièrement en Italie, mais que les connaissances et les moyens techniques empêchent de comprendre et de traiter la maladie, il est plus intéressant, me semble-t-il, de mesurer les attentes des sociétés et des pouvoirs vis-à-vis d'elles, les interrogations et les controverses qui l'ont parcourue et les réponses qu'elle a proposées au gré de l'installation endémique de la peste. Comme différents travaux de Chiara Cristiani l'ont montré, l'affirmation de la profession médicale en tant qu'élite diplômée à partir du XIIIe siècle, ce qu'elle n'était pas dans l'Antiquité, passe notamment par la pratique du conseil qui exprime son autorité et son savoir. Face à une maladie qui rapidement ravage le monde occidental et met en doute son expertise, le monde universitaire, en premier lieu, répond par une prolifération sans précédent de traités, régimes, conseils, plus ou moins longs, tous ou presque centrés sur la peste. Au sein d'un ensemble, et Patrick l'a rappelé dans une de ses leçons, un ensemble constitué de plus de 300 textes, inventoriés et publiés pour une large part, même s'il en reste d'autres, par Karl Sudhoff, plus d'une dizaine... C'est ma première image et je pense que j'en ai oublié. Plus d'une dizaine sont rédigées au moment même de la peste noire, donc au cœur de la première pandémie, de la première vague, disons. Écrit dans l'urgence, il constitue donc une réponse immédiate à l'irruption de la maladie. Certains, comme Jaume d'Agramont ou Pierre de Damousy, en parlent alors même qu'ils n'en ont pas encore fait l'expérience. Cette production témoigne clairement du souci de répondre aux attendus éthiques et professionnelles en matière de conseil, mais aussi ils répondent à une demande politique et sociale, celle des élites. Cette production rend compte aussi d'un effort d'objectivation d'une entité pathologique nouvelle qui passe par sa compréhension et son identification. Ces premiers auteurs s'efforcent de rattacher en effet la maladie à un ensemble nosologique, celui des fièvres. Je rappellerai ici que les fièvres sont une pathologie à part entière, hein, dans le discours médical antique et médiéval, des fièvres qualifiées d'épidémiques parce qu'elles touchent beaucoup de gens au même endroit. Les mots pour la désigner, pestilentia, febris pestilentialis, epidemia, mais en même temps, les mots pour la désigner donc le soulignent, ces mots que je viens de citer, mais en même temps la distinguent des autres fièvres en raison de son caractère mortel. Ici, les deux citations que je vous propose, dont je ne lirai que la première, rappellent, hein, qui sont extraites du corpus hippocratique, que c'est le nombre de morts qu'occasionne la peste qui la distingue donc de l'épidémie. Elle en est en quelque sorte une catégorie particulière. Certaines maladies frappent beaucoup de gens en un seul temps, maladies qui, lorsqu'elles se révèlent fatales, sont nommées pestilences, tandis que si elles s'avèrent plus modérées, on les désigne par une autre appellation en les appelant épidémiques. De sorte que la maladie épidémique est une maladie qui se répand en un temps dans une contrée, tandis que la pestilence est une épidémie fatale. Si une partie de cette littérature que je viens de citer reprend d'un texte à l'autre, et tout au long aussi du Moyen-Âge, des mêmes conseils et les mêmes explications, certains auteurs, au fur et à mesure de l'expérience de la peste, modifient leur perception. Gentile da Foligno, qui, lui, a écrit trois conseils très brefs avant de mourir de la peste le 18 juin 1348, change très vite d'opinion entre le moment où il en a entendu parler et le moment où il en fait l'expérience. Alors que la peste n'a pas encore atteint Pérouse, où il est professeur, il déclare, je cite, je ne sais plus si j'ai mis la citation, oui, il déclare, je cite, hein, donc, que l'effrayante peste qui était là depuis un certain temps n'est pas aussi maligne que celle de la cité de Cranon dont parle Avenzoar, médecin d'Al-Andalus, mort en 1162. Plus tard, alors que la ville est touchée, il reconnaît, dans un conseil cette fois-ci adressé au Collège des médecins de Gênes, je cite, que cette pestilence, cette épidémie, ou quel que soit son nom, est très effrayante, jamais vue et inconnue des autorités médicales, et bien pire que les autres pestes mentionnées auparavant. Pour Jean de Bourgogne, qui écrit un traité donc en 1365, est un praticien de Liège, mort en 1372, elle est singulière et elle met surtout en échec le savoir des anciens. J'ose dire, non pour jeter l'opprobre sur les auteurs antiques, mais parce que la longue expérience me l'a montré, que les maîtres du temps présent, où qu'ils soient, ont une expérience dans les maladies pestilentielles, et épidémiques qui vaut mieux que tout l'art de la médecine qui descend d'Hippocrate, car aucun de ces auteurs ne vit en son temps régner une épidémie si forte, si ce n'est Hippocrate qui l'avait régné dans la cité de Craton. Ils ne virent donc point d'épidémie aussi générale ni aussi longue, ni ne s'enquirent ni ne firent l'expérience de soins si longs, ni mis à l'épreuve par une si longue expérience. Et plus loin, pour cette raison, une sorte de formule heureuse, hein, on dit que c'est vrai, l'expérience fait l'art médical, citant évidemment ici le premier aphorisme d'Hippocrate. Donc, une maladie universelle, hein, une maladie de l'expérience. Deux maîtres mots ici. Cette expérience d'une maladie générale, universelle, est très longue, hein, qui s'étend dans le temps. Ce qui singularise en effet la peste du XIVe siècle, c'est son expansion géographique et sa durée qui l'a fait apparaître, disparaître, puis revenir. L'expérience, elle, sert à la fois au diagnostic et aux thérapies. Assez tôt, dès les premiers textes, on voit mentionné sous le nom de glandula, apostemata, tumor, bubo, carbunculis, anthrax, gibus ou simple pustulis, ces excroissances douloureuses, souvent localisées aux différents émonctoires, les zones qui drainent par les canaux lymphatiques la matière putride qui provient soit du cœur, soit du foie, soit du cerveau, afin de l'évacuer. Leur localisation désigne pour les médecins la veine à saigner. Parfois, leur incision et cautérisation sont recommandées pour faciliter l'écoulement du poison. Alphonse de Cordoue, qui est l'un des auteurs de 1348, parle de charbon et d'apostume sous l'aisselle. Un autre texte anonyme des mêmes années fait de ces grosseurs qui n'ont pas de nom, mais qui sont situées à l'aine, au côté ou au cou. Veuillez m'excuser, j'ai oublié de passer les images. Donc, à l'aine, au cou ou à l'aisselle, gonfle puis grossit, il en fait le signum morbis, le signe de la maladie. Si certains plus tard, comme Hermann Schedel au milieu du XVe siècle, un médecin allemand formé à Padoue, s'efforce de distinguer anthrax et le petit charbon, dans l'ensemble, on s'aperçoit, à la lecture de cette littérature, que le vocabulaire pour désigner ces ganglions purulents reste, somme toute, assez flou. Le terme, c'est plutôt apostume, qui est le plus généralement admis. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est pour les médecins le signe de cette identification de la maladie. Rares sont ceux aussi qui distinguent les formes qualifiées aujourd'hui de buboniques et de pulmonaires en raison d'une létalité plus ou moins rapide et d'une visibilité donc de ces ganglions. Vous avez ici le célèbre... Ah non, je ne l'ai pas mis. Si, je l'ai mis. Le célèbre médecin des papes, Guy de Chauliac, souvent cité pour son manuel de chirurgie rédigé au début des années 1360, qui fait par deux fois l'expérience de la peste en Avignon. La dite mortalité débuta chez nous au mois de janvier et dura 7 mois, il parle de 1348, et elle fut de deux sortes. D'abord, pendant 2 mois, elle se manifesta par une fièvre continue et des crachements de sang, et on en mourait dans les 3 jours. Ensuite, pour le temps restant, elle se manifestait, donc c'est une sorte d'autre catégorie de la même maladie, par une fièvre également continue, des abcès et des charbons sur l'extérieur du corps, principalement sous les aisselles et haleines, et on en mourait en 5 jours. En 1348, un autre médecin de Naples, Giovanni della Penna, énumère ceux qui souffrent d'apostumes non visibles, mais qu'il pense localisés à l'intérieur du corps, en particulier dans le poumon et la poitrine, qui crachent du sang et qui meurent rapidement, et ceux qui ont des anthrax, il parle aussi d'érysipèles ou de ganglions, différemment situés sur le corps. En tout cas, aux yeux des médecins, se dégage très tôt, dès 1348, l'idée que le signe de la peste, le plus manifeste, le plus évident, le plus facile, quoique ces ganglions soient décrits différemment, enfin, ne sont pas décrits, sont nommés différemment, plus qu'ils ne sont décrits, sont le signe, le signum morbis. Vous avez ici un texte plus tardif, des années 1439, avec un tableau qu'on dirait aujourd'hui clinique, un tout petit peu plus développé qu'on ne le trouve dans les textes précédents. Ce médecin lombard, Antonio Guainelli, écrit un traité de la peste et des venins qu'il adresse au duc de Milan, Filippo Maria Visconti, et désigne donc ici un certain nombre de signes, la chaleur à cause du fort préjudice du cœur qui est attiré vers l'intérieur du corps, qui s'embrase et se trouble. De là, le malade rapporte, donc la narration aussi du malade qui sert au diagnostic du médecin, rapporte sentir à l'intérieur de son corps une si grande chaleur qu'il semble brûler, de sorte qu'il amplifie sa respiration. Il s'adresse à son confrère, tu découvriras en outre la vertu, prostrée, le pouls, dans toute fièvre de ce type qui est très faible, rapide et resserrée. Avec ceci, si tu vois aliénation, fureur, présence d'insomnie, une couleur jaune du visage et des yeux avec une langue noirâtre, une amertume de la bouche et une salinité, avec une soif intense, tu jugeras que cela provient de la chaleur ou du phlegme. Et puis il mentionne également les bubons. Prolifique et géographiquement étendue à l'ensemble du monde occidental, cette littérature médicale, souvent moquée par les historiens en raison d'un savoir obsolète et qui parfois apparaît un petit peu folklorique, n'en répond pas moins à des attentes et à des lecteurs. Depuis les travaux pionniers de Carlo Maria Cipolla dans les années 1970 sur la mise en place d'administrations de temps de peste et l'émergence d'une idée de santé publique, l'historiographie a souvent à opposer les réponses des autorités et celles des médecins. Cette lecture s'appuie sur l'idée selon laquelle les premières auraient compris très vite la contagiosité de la maladie et auraient pris des mesures adéquates, ou au moins tenté de le faire, tandis que les seconds auraient été prisonniers d'un modèle explicatif hérité des autorités, les empêchant donc de comprendre ce phénomène. Cette lecture appelle quelques remarques. La première porte sur le caractère limité à l'espace italien de ces administrations de temps de peste. On a évoqué tout à l'heure le cas florentin. On observe à Venise les provéditeurs de santé, à Florence les auto di guardia e di custodia, dès l'été 1348, dans la tradition des bureaux spécialisés du monde communal italien. Les compétences dont jouissent ces administrations de temps de peste sont progressivement élargies, mais limitées au temps de l'épidémie. Hein, c'est qu'à l'époque moderne qu'elles seront, qu'elles deviendront plus stables, pour lutter, donc, si je cite ici les textes vénitiens, par tous les moyens pour préserver la santé publique et empêcher la corruption de l'air. En 1486, à Venise, au moment où la magistrature devient permanente, elle s'occupe largement de la surveillance des lazarets, de la propreté urbaine, de la salubrité des citernes, des canaux, de la netteté des auberges ou encore de la qualité des denrées sur les marchés. Pourtant, il faut remarquer que ces administrations, ne s'exportent que très lentement. À Milan, l'une des grandes cités du monde occidental, il faut attendre la fin du XIVe siècle pour voir un commissaire à la santé nommé par le duc. Puis ailleurs, à partir du milieu du XVe siècle, je pense à la Junta del Morbo, par exemple à Majorque, ou encore en Avignon, les députés à la santé en 1477, dans les années 1450 à Brignoles aussi, où on a des substrants qui s'occupent d'une commission sanitaire. Mais tout cela provient d'expériences répétées de la peste. Même constat à propos des mesures qui sont prises, notamment en matière d'isolement. Ces créations médiévales, je ne peux pas m'empêcher de citer ici, c'est parce qu'on les a aussi évoquées pour le confinement dans lequel nous avons vécu, elles étaient considérées comme violentes et dignes d'un siècle de barbarie, comme disait l'homme politique socialiste et médecin Ange Guépin en 1836, au moment où elles sont à nouveau réactivées pour faire face au choléra. Eh bien, ces mesures d'isolement sont loin d'être partout adaptées et adoptées à l'époque médiévale et à la même vitesse. Si en 1348, dans certaines cités toscanes, donc, sont attestées les premières fermetures de villes aux habitants venus de zones contaminées, c'est surtout à partir des années 1370, lors de recrudescence de la peste, que sont prises des mesures plus radicales, fruit de l'expérience éprouvée. Elles sont bien attestées en Lombardie, avec notamment des contrôles sur la mobilité des personnes, avec, comme vous l'avez à l'écran, une attestation plus tardive de ces bulletins de santé, ces laissez-passer de bonne santé qui sont délivrés pour pouvoir quitter la ville, expulsion de la ville des pestiférés, enfermement à domicile, instauration de cordons sanitaires, puis de véritables quarantaines à partir de Dubrovnik, Raguse en 1377, pour les bateaux arrivés dans le port, puis à Venise quelques années plus tard et à Milan, donc sans port, pour isoler les pestiférés hors de la cité. Tout un arsenal donc de mesures préventives ou destinées à limiter la propagation de la maladie, mais qui sont loin d'être partout adoptées. Dans une documentation, et cela la Bellès l'a souligné tout à l'heure, mais c'est la même chose aussi plus tard, une documentation est là souvent trop lacunaire. Ici aussi, sans doute, se dessinent des contradictions entre politique sanitaire et nécessité économique qui ne peuvent pas ne pas faire écho à des situations plus contemporaines. Mais surtout, et c'est ma troisième remarque, il me paraît erroné de voir dans ces décisions une lecture contagionniste de la maladie. S'il est vrai que le mot en latin « contagio » apparaît dans les sources pragmatiques produites par ces administrations, on le voit aussi sous la plume des médecins et ce, depuis les écrits galéniques. Certaines maladies, comme la variole, la rougeole, la phtisie, la rage ou la lèpre, sont considérées comme contagieuses par les médecins. Et la peste, tout autant. Gentile da Foligno, qui relate son parcours depuis Gênes, Pise, Piombino, Massa jusqu'à Pérouse, déclare, je cite, que cette pestilence pestifère se fait par contagion et elle transite non seulement d'homme en homme, mais de terre en terre. Quelque temps plus tard, le Milanais Cardo Spanzotti, en 1378, parle de morbus contagiosus, de maladie contagieuse. Et puis, le terme se répand dans les traités du XVe siècle. Mais pour la médecine, comme pour les autorités publiques, le mot a une acception bien plus large que celui de contagion. Il désigne des contacts, au sens large, par le toucher, par le regard, par l'exhalaison de gouttelettes, la respiration des patients qui contaminent l'air. en se méprenant sur la terminologie. Les historiens rejouent sur le terrain de la peste une controverse cristallisée au XIXe siècle lors des débats sur le choléra. Ces querelles opposent alors les anticontagionnistes ou tenants des théories aéristes qui pensent la maladie comme infectieuse et les contagionnistes perçus comme modernes, incarnés par les autorités publiques. Ajoutons enfin que la maladie de la peste n'est véritablement contagieuse que dans son sens, au sens d'interhumaine, dans le cas de la peste pulmonaire. Mais pour les médecins médiévaux, ce débat, en fait, n'a pas lieu d'être. La peste est infectieuse et contagieuse. La contagion s'inscrit dans un faisceau de causes hiérarchisées, des plus lointaines, une conjonction astrale responsable de la putréfaction de l'air, selon certains, qui expliquerait son caractère universel, au plus proche de nature terrestre, les exhalaisons des cadavres, des marais, des choses souillées, la respiration des malades. Donc, l'infection de l'air à l'origine de la maladie et sa propagation ne s'opposent pas à la contamination par l'homme et par ses effets personnels. Tous deux se complètent, la première agissant comme cause première, la seconde comme facteur de transmission. Ce que résume à la fin du XIVe siècle le médecin padouan, mais qui exerce alors à Milan, Pietro da Tossignano, professeur à Pavie, lorsqu'il énumère quatre causes principales de propagation, l'air corrompu, les lieux infectés, la disposition naturelle d'un individu à être contaminé et le contact avec un malade. Il ajoute enfin que si des prisonniers ou des moines, l'un d'eux en vient à être atteint, les autres sont disposés à l'être, du fait de leur proximité, une sorte de cluster avant la lettre. Ce que dit de la même manière Henri de Brême, professeur à Prague à la fin du XIVe siècle, la pestilence est une maladie très contagieuse et infectieuse, mobile, qui se promène d'homme en homme, d'animal en animal, parce qu'en vertu de la chose, un pestiféré dans une maison peut infecter toute la maison, et cette maison infecter 5 maisons d'une ville, ces 5 maisons peuvent infecter toute une terre ou une région, comme nous le voyons par expérience. Alors, je ne vais pas développer, parce que j'ai entendu que tu avais beaucoup parlé de la contagion lors d'une leçon sur le discours médical en particulier, donc je ne développerai pas sur cette contamination et sur la manière dont elle opère, mais sachez simplement que cette littérature, depuis 1348, évoque la nécessité de se prémunir de toute conversation, de ne pas se mélanger avec des personnes infectées ou non infectées. Je pense que j'ai mis peut-être quelques citations ici que vous retrouverez chez Gentile da Foligno ou d'autres auteurs, Giovanni della Penna, qui recommande d'éviter les discussions avec des individus venant de régions infectées, même s'ils n'apparaissent pas malades de prime abord. Ou encore Tommaso del Garbo, qui recommande de ne pas avoir de contact avec les personnes infectées car elles peuvent corrompre les autres. Donc toute une série de textes, et il y en a énormément, qui évoquent cette nécessité de se prémunir de tout contact plus ou moins proche avec les malades, les églises, le bain, etc. Ou encore même un auteur du début du XVe siècle qui relate une expérience vue en Allemagne de 2 enfants morts après avoir touché les effets d'une défunte et qui dit qu'il ne faut pas non plus vendre ces effets avant 1 ou 2 ans pour attendre donc en gros la décontamination, si je puis dire, des effets des pestiférés. Si se dégage ici une communauté de vues sur la transmission de la maladie, voit-on pour autant sur le terrain pandémique des collaborations entre médecins et autorités publiques? Sans faire des conseils médicaux, l'origine des mesures sanitaires qui sont prises par les autorités, certains éléments suggèrent de ne pas complètement déconnecter réponses médicales et politiques. D'abord parce que ces textes sont rédigés parmi les plus précoces à la demande des autorités politiques ou bien s'adressent à eux. Les auteurs disent agir au nom de l'utilité commune pour le bien et la santé des populations. Alors, je ne le lirai pas, il est bien connu, tu en as également parlé, fameux prologue du traité demandé à la faculté de médecine de Paris, rédigé collectivement par les maîtres à la demande du roi de France Philippe VI, où on voit bien que c'est à la requête donc, de l'illustre prince, désireux d'œuvrer en vue de l'autorité, de l'utilité publique. Quelques mois plus tôt, Gentile da Foligno écrit l'un de ses traités sur la requête des autorités de Pérouse. Jaume d'Agramont, le médecin natif de Lérida, adresse son régime de la pestilence aux autorités de la ville, mû, dit-il, par le véritable amour et la charité, pour l'utilité commune et publique, au profit du peuple, et non pour l'instruction des médecins. Vous avez ici le début, hein, je suis natif de cette ville, j'ai reçu des honneurs, je veux rendre quelques services, sauver des dommages la cité et ses notables, mais aussi quand même les hommes et les femmes, hein, pour les empêcher de tomber malades. Et donc j'ai préparé le traité suivant que je vous présente, avec mission aussi, pour qui le voudrait, de diffuser ce texte auprès des populations. Et c'est la raison pour laquelle il est le premier à rédiger en catalan, en langue vernaculaire, ce texte. Il sera suivi par d'autres quelques années plus tard. Autre exemple qui vous montre ce souci de diffusion de cette littérature médicale et ce lien avec les élites sociales et politiques des cités. Pour les ducs de Milan, au moins 3 textes, et je suis sûre d'en avoir oublié au moins l'un d'entre eux au passage. Ou encore la grande famille des Santa Sofia, les professeurs de l'université de Padoue, des générations de maîtres de l'université, qui écrivent pour la ville d'Udine et pour le duc Albert d'Autriche, ou encore pour le doge de Venise, une série de traités. Encore au XVe siècle, les autorités parisiennes consultent la faculté de médecine sur la veine qu'il faut saigner, ou le conseil d'Angers demande l'avis des médecins sur des mesures à prendre. Donc on a ponctuellement ce genre d'informations. Des formes de collaboration intellectuelle qui s'incarnent parfois aussi sans doute, sans en avoir toujours la preuve formelle, dans certaines mesures. C'est à la fois par charité chrétienne, mais aussi sanitaire, qu'il faut enterrer au plus vite les cadavres qui s'accumulent. L'interdiction de marché, de procession, de rassemblement là où ils sont attestés. L'aération et le nettoyage des maisons des pestiférés, les feux odoriférants dans les rues, ou encore l'isolement des malades font écho aux recommandations médicales. En 1348 déjà, Gentile est conseillé à celui qui avait en charge la cité, je cite, d'avoir des entretiens, des entrevues avec les médecins et de disposer la cité selon les informations de ces derniers pour ce qui concerne, je cite, « la securitas, la sécurité des hommes ». Le combat de terrain mené par les autorités, c'est donc aussi celui des médecins. Si l'irruption de la peste a pu susciter la fuite, aussi bien des élites politiques que médicales, suivant le concept classique, fuit loin tard et, enfin, loin et revient tard, ce ne fut sans doute pas l'attitude la plus courante, comme le montrent différents travaux. Les difficultés à trouver des médecins dans les villes sont sans doute moins la résultante de leur lâcheté que du prix payé à la peste. Gentile lui-même y a succombé, nous dit une source, parce qu'il était trop sollicité par les malades. Guy de Chauliac, tombé malade, reconnaît avoir renoncé à fuir par peur de l'infamie. Dans cet aveu, il faut lire une affirmation déontologique nouvelle, celle qui consiste pour le médecin à tenter de venir en aide, même à ceux frappés par une maladie mortelle. Le médecin montpelliérain, quelques années plus tard, Jean Jacques, affirme même que le médecin doit soigner le malade, debent curare infirmos. Longtemps, pour ne pas subir le déshonneur, l'éthique médicale a recommandé de ne pas soigner celui qui devait mourir. Promis, donc à une mort certaine. Prendre en soin un mourant est en fait associé à la figure du charlatan, avide de gain, qui promet à qui veut le croire une guérison en fait impossible. Avec l'expansion de la lèpre, maladie au développement lent et à l'issue souvent fatale, l'attitude médicale, comme l'a montré Luc de Maître, a progressivement changé et les médecins se sont de plus en plus souvent autorisés à tenter de la soigner. La peste, malgré son caractère plus brutal, a bénéficié, si je puis dire, de ces changements d'attitude, et la littérature le reflète, qui propose aux côtés de régimes prophylactiques des conseils thérapeutiques où la saignée ou l'incision des bubons aux côtés de la thériaque sont prévalents, car la peste est considérée comme une forme d'empoisonnement de tout le corps et il importe donc d'évacuer ce venin. Cette action sur le terrain est corroborée par les conseils des médecins eux-mêmes lorsqu'ils s'adressent à ceux qui visitent les malades. Gentile recommande de prendre un certain nombre de mesures, ou encore Jean-Jacques. Les physiciens, je cite, lorsqu'ils doivent traiter donc, les malades, doivent se tenir à distance des patients, tenir leur visage tourné vers la fenêtre. Moi-même, je tenais dans la main un morceau de pain, une éponge ou un linge trempé dans du vinaigre que je tenais à la bouche et mon nez, et ainsi j'ai échappé à la pestilence, tandis que mes amis ne pensaient pas que je puisse survivre. On voit aussi des conseils, il faut installer le lit du patient à hauteur pour être sûr de ne pas s'approcher de lui lorsqu'il parle. Vous avez une série de textes, je ne développe pas parce que je pense que je suis déjà trop longue. Seul exemple peut-être pour cette époque médiévale où réponse intellectuelle et intervention de terrain entrent en coalescence et sont attestées par les sources, c'est l'exemple milanais de la fin du XIVe siècle qui donne un éclairage assez bien documenté de cette implication quotidienne des médecins de la cité dans la lutte contre l'épidémie. L'autorité ducale, en effet, donc, impose aux médecins de la cité de livrer le nom des patients dont ils ont la charge. Elle en recrute de nouveaux, soit pour les soins des malades, soit pour les mettre à l'isolement, en faisant ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de campagne de dépistage des nouveaux cas qui seront mis en quarantaine. Pour participer à la gestion de l'épidémie, puisqu'au sein de l'office de santé, on voit être recruté au moins à partir des années 30 du XVe siècle, un médecin et un chirurgien épidémie. Cet ensemble documentaire, vous en avez quelques rares exemples à l'écran, enfin rares parce que j'en ai mis que trois, mais en fait la documentation est bien plus importante, sous forme de lettres, de bulletins quotidiens, sous forme de registres, registres de morts, témoignent de ces missions au quotidien, des enquêtes sanitaires qui livrent l'identité des malades, la localisation de leur résidence par paroisse de la cité, le nom aussi de leur âge, pardon, le nom également du praticien que vous avez ici, Iudicium, le nom du jugement, Catellani, c'est le nom du médecin de l'office de santé, mais vous trouverez également d'autres noms cités qui attestent donc de cette expérience de terrain. Expérience à la fois donc recensement des morts, mais aussi des malades, où on distingue ceux qui sont ici infectés par la peste, de ceux qui sont malades d'autres pathologies. Ici, le praticien n'apparaît plus comme dans la littérature sous les traits du soignant, mais comme agent de l'autorité en charge d'identifier les pestiférés. Si d'autres villes ont entrepris au long des XIVe et XVe siècles de compter leurs morts, vous avez ici le célèbre registre comptable de Givry en Saône-et-Loire, tenu pendant quelques années au sein d'un registre de comptabilité paroissiale, le nom des morts. Vous en avez exactement dans d'autres villes, je pense à Brême, les registres paroissiaux de 1350, Barcelone 1429, en Toscane également, à Florence en particulier, étudié par Anne Carmichael. Ailleurs, ce ne sont pas des médecins qui agissent, ce sont des prêtres, ce sont des fossoyeurs qui enregistrent ces morts. Le cas milanais, lui, se singularise par cette présence médicale. Agent du pouvoir répressif qui enferme les malades ou thérapeute au service des patients, le médecin joue différents rôles qui sont la résultante d'une expérience renouvelée de la maladie. Car si au milieu du XIVe siècle, la maladie nouvelle suscite interrogations et tentatives de compréhension, dans les années 60, elle apparaît comme une compagne désormais familière dont on est loin d'être débarrassé. Jean de Bourgogne, déjà cité, déclare, je cite, « L'épidémie est à nouveau revenue et elle reviendra dans l'avenir parce qu'elle n'a pas encore achevé son cours », annonçant des retours successifs comme autant de vagues de la peste. Il faut vivre avec, même si tous les épisodes ne se ressemblent pas. Un auteur du XVe siècle évoque celle du siècle précédent qu'il qualifie d'horriblissime, ajoutant qu'il n'y avait rien eu de semblable depuis la naissance du Christ, puisqu'à peine un quart des hommes a survécu. Mais l'expérience répétée montre aussi que certains survivent et d'autres restent indemnes. Et la littérature médicale s'en fait l'écho et cherche à comprendre. On évoque la prédisposition de certains corps du fait de leur complexion naturelle, de leur âge, de leur régime de vie, qui en fait des proies de la maladie. Ainsi, Giovanni Della Penna remarque que les femmes et les enfants meurent plus, ainsi que les plus faibles. Le médecin Sigismond Albicus, en 1407, explique cela par le fait que les membres sont plus poreux, plus souples, et donc les pores dilatés accueillent l'air infectieux. Un texte anonyme de la fin du XIVe siècle remarque que les pauvres meurent plus vite, de même que ceux qui fréquentent les églises, les places, les bains. On évoque encore les malades qui ne manifestent aucun signe de la maladie, des sortes de porteurs sains avant la lettre, en l'expliquant par un passage du canon d'Avicenne sur la pucelle venimeuse qui infecte ceux qui l'approchent sans être elle-même visiblement malade. Le Toscan Franceschino da Collignano, en 1382, s'intéresse, lui, à la saisonnalité de la maladie, tandis que Sigismond Albicus, déjà cité, interroge les liens entre guerre, peste et famine. Autant de questions liées à l'expérience répétée qui donne naissance au XVe siècle à des ouvrages plus longs, souvent nourris par les autorités médicales et qui prennent les formes du débat scolastique. Plus largement, les retours réguliers de la maladie poussent à la rédaction de régimes de temps de peste. Je cite une manière de vivre en temps pestilentiel, selon l'intitulé que donne le médecin des ducs de Milan Giovanni Dondi, au régime qu'il écrit en 1389 pour l'évêque de Pavie. Il s'agit, comme le disait déjà Jean de Bourgogne en 1365, de faire du lecteur son propre médecin, le conservateur, le directeur et le guide de sa santé. Cette insistance prophylactique s'explique par les retours soudains de la peste et une double difficulté diagnostique et thérapeutique. Il demeure difficile de l'identifier en l'absence de bubon. Les urines sont souvent trompeuses, disent les médecins. La multiplicité des thérapies, pas toujours efficace bien sûr, ni toujours acceptée, met en difficulté le médecin. Un auteur met en garde aussi ceux qui ouvrent violemment les opostumes avant maturation et en font sortir le sang infecté et disent ainsi guérir les malades, c'est dangereux, annonce-t-il. Ou encore le Byzantin Théobald Lonetti, dans la seconde moitié du XVe siècle, dans son De Pestilentia, qui décrit un débat auquel il a assisté alors qu'il se trouvait à Bologne, altercation entre médecins à propos de maladies incurables, comme la lèpre, la paralysie, la pestilence et de semblables, et qui veulent conclure qu'aucun remède ne peut être trouvé alors que lui se propose d'en annoncer quelques-uns dans son traité, puisqu'il en a vu et il en a fait l'expérience de ces remèdes appliqués en Savoie. Beaucoup soulignent que le succès dépend de l'intervention rapide des médecins. Il faut tout de suite, dès que le patient ressent des piqûres, des fourmillements dans la poitrine, sentiment de lourdeur, des douleurs de tête et l'apparition des ganglions, intervenir. Sur le terrain, l'expérience personnelle, souvent mise en avant, construit aux yeux des lecteurs l'autorité et l'expertise du médecin vis-à-vis d'une littérature foisonnante et pas toujours concordante. Outre Guy de Chauliac, déjà cité, je citerai pour terminer ici les quelques phrases issues d'un régime de l'étudiant allemand Hartmann Schedel, qui évoque un certain Stefano de Doctoribus, médecin padouan des années 1460, qui doit sa survie à la fois au sein et à son propre régime. Suit le régime prescrit par ce médecin qui était infecté, et il a pris rapidement soin de lui par ce régime. Non seulement il s'est relevé de la peste, mais sa femme en a été libérée. Car en moins de 4 jours, lui à la tête du lit et son épouse au pied, tous deux malades de peste et gisant dans le lit avec une fièvre horrible et le signe détestable, il a écrit le régime et a été soigné par le mérite de tous les saints, et il est en bonne santé. Témoignage, observation, prise sur le vif, si je puis dire, ou presque. Dans le débat historiographique encore actuel autour de l'implication médicale dans la lutte contre l'épidémie et des réponses politiques, tout est loin d'être tranché, et sans doute sera-t-il difficile de fournir une réponse univoque. Les débats demeurent vifs entre ceux qui, comme Samuel Cohn, en s'appuyant sur la vision de certains chroniqueurs du temps, une vision assez catastrophiste de l'épidémie, accentuée par les pogroms anti-juifs. D'ailleurs, un auteur comme Jaume Néramont ne manque pas d'accuser les Juifs d'être à l'origine de l'épidémie. Et ceux qui, comme John Anderson ou Shona Ray, dont on a parlé aussi tout à l'heure, dans la lignée de travaux plus anciens sur la base de testaments bolognais, insistent sur l'intervention médicale, le maintien des liens sociaux et d'une vie civile au plus fort de l'épidémie, causant sans doute la mort de la moitié de la population urbaine. Selon les lieux, en fonction aussi de la documentation conservée, on ne peut qu'avoir des lectures contradictoires et surtout incomplètes. Mais il me semble important d'éviter 2 écueils. Celui qui consisterait à fournir une vision unifiée des réactions face à la peste. Et le deuxième, celui qui proposera un jugement surplombant vis-à-vis de ce que nous disent les sources, celui de l'observateur du XXIe siècle face à une société distante de plusieurs siècles. Sans nier bien sûr l'inefficacité des mesures prises, que ce soit les propositions thérapeutiques des médecins ou les décisions des magistratures, en raison du niveau de connaissances scientifiques et des moyens logistiques, on ne saurait nier leur existence même, certes à des échelles et selon des temporalités différentes. Ici, La péninsule italienne, riche d'un milieu médical plus nombreux, où sont rédigés pas moins d'une cinquantaine de traités durant cette période, en partie liés au monde politique, insérés dans les milieux de la ville, eh bien, Italie a pu jouer un rôle de laboratoire. Différents travaux de Viviane Natson à Guy Gultner plus récemment soulignent une sensibilisation précoce à ces sujets. Les expériences répétées de la peste et les attendus des populations, peut-être de moins en moins enclines aussi à accepter la mort sans résister, nous conduisent à l'aune même de notre expérience actuelle à une lecture plus nuancée. Même si elles ne fournissent pas de réponse satisfaisante au regard des standards actuels, les propositions répétées des médecins tout au long de cette période et à l'époque moderne, les efforts pour proposer un diagnostic et des thérapies même incertaines et des mesures sanitaires, rendent compte d'une réactivité plus ou moins rapide et surtout d'efforts conjoints et constants pour prendre en charge un problème de santé publique. Désolée, je crois que j'étais horriblement longue.